Donc pourquoi un pèlerinage? Parce que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Et initialement, c'était ça la grande difficulté, le grand malheur de l'humanité. C'est que elle est sous l'empire du péché, tous les humains. Et ils ont beau essayer de faire de tout leur mieux, ils ratent toujours la cible. Ils n'arrivent pas à faire le bien tel que Dieu l'entend. Bien sûr, tel que Dieu l'entend, tel que Dieu l'attendait d'eux. Donc ils sont esclaves du péché et donc comme des pécheurs soumis à la condamnation de Dieu qui pèse sur eux. Mais Dieu n'a pas voulu que la situation en reste là. Et de toute éternité, il avait prévu un sauveur, son fils, qui devait venir régler ce problème. Et c'est ce qu'on appelait la justification par la foi. Donc sans faire tout ce que Dieu demande dans sa loi, dans sa parole, Dieu accorde quand même la justice qui vient de lui simplement par la foi et par l'imputation de la justice de Jésus-Christ. Jésus-Christ prenant notre condamnation et nous donnant sa justice. Donc c'est vraiment quelque chose de gratuit et de incompréhensible et de tellement merveilleux. C'est nous remplit de joie et c'est quelque chose qui a été acté. Pour nous, c'est dans le passé. C'est à la croix de Golgotha que ça s'est passé. Pour les Israélites qui étaient en marche, c'était quelque chose qui était devant eux et dans lequel ils plaçaient leur foi à travers les sacrifices et le rite de Moïse à l'époque. Et donc, il s'agit de quitter l'empire du péché. Le but, c'est pas de rester et de pécher, de rester dans le péché. Et l'apôtre Paul à ce qu'on lui disait, si le pardon est si facile, s'il n'y a rien à faire finalement, autant pécher. Qu'est-ce qu'il nous empêche? Qu'est-ce qui va nous retenir? Et l'apôtre Paul disait, loin de là. C'est pas du tout comme ça que Dieu a prévu les choses. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Nous avions vu également dans la pratique, comment on quittait l'empire du péché? On quittait parce qu'on avait reçu une nouvelle nationalité. On était mort à l'ancienne vie. Il fallait se voir, se considérer mort. Et on avait une nouvelle identité en Jésus-Christ. Hein. Mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'était un service à plein temps qui nous était proposé d'offrir nos mains à Dieu. À son service, c'est ça la grande idée pour quitter cet empire du péché. On a un CDI à temps complet de service pour le Seigneur. On va développer ça encore aujourd'hui, mais c'était un service qui était, on a vu, conduit par l'Esprit. Ce n'est plus la loi, le livre de la loi de Moïse qui allait régir ce service, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même. On a vu que c'était pas si simple que ça, cette marche, parce que on n'y arrive pas en fait tout seul. Et il y a la trousse de secours. Dans notre parcours, dans notre périple, on va chuter. On va souvent chuter, on va tomber, et il va falloir se relever. Et Dieu a prévu cela dans sa parole. On a besoin de soutien des frères et sœurs, on a besoin du soutien de la parole de Dieu et on a besoin de se relever et de partir chaque fois qu'il y a une chute et malheureusement il va y en avoir. Mais c'est pas le but c'est pas de chuter et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Alors, est-ce que vous voulez que je vous mette le texte à l'écran ou pas? Oui. Donc, est-ce que je l'ai sorti? Je ne l'ai pas sorti. On va voir les 17 premiers chapitres. C'est un programme assez long ce matin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait terminé par ce misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui va me faire que enfin je vais arrêter de pécher et faire le bien auquel j'aspire? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, le chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous l'empire de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Or, si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors, les premiers versets. La loi de l'esprit est au-dessus de la loi du péché, pour les quatre premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, dans le Christ Jésus. Ça, c'est un verset que les chrétiens connaissent bien et qu'ils aiment se rappeler chaque fois qu'ils chutent, chaque fois qu'ils ont des difficultés dans leur marche chrétienne. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chrétien en Christ est en quelque sorte incondamnable, hein, intouchable par rapport à la condamnation. Et donc l'apôtre a développé cela dans les chapitres précédents, sur la foi de la base, dans le sacrifice de Jésus, nous trouvons, par pure grâce, le pardon et la rédemption. Jésus ayant pris notre jugement et nous ayant attribué sa justice, étant en Christ, nous sommes morts, ensevelis, ressuscités avec lui, et donc nous, en cela nous ne sommes pas condamnables. Car chose impossible à la loi, en effet la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a libéré ou t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. La loi du péché nous tire vers le bas. La loi de Moïse ne peut que condamner le péché, et il n'y a pas d'issue humaine à cette situation, sauf la loi de l'Esprit qui applique le sacrifice de Jésus. En France, nous avons, vous savez, des lois nationales qui nous régissent, et puis il y a des lois qui sont au-dessus, les lois de la communauté européenne qui ont le dessus sur les lois nationales. Et des fois, il y a des personnes qui s'en réfèrent à la justice européenne pour faire appliquer une vraie justice, et la justice européenne prend le pas sur les justices nationales. Ça donne une image un petit peu ici. Et c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit qui est au-dessus de la loi du péché, et qui est au-dessus de la loi de Moïse, la loi de l'esprit. Et c'est cette loi que l'apôtre Paul va nous développer un petit peu, comment cela fonctionne dans notre texte de ce matin. Et ce qu'il y a d'extraordinaire au verset 4, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc le but final de Dieu, c'est non seulement que nous ayons le pardon des péchés, mais que nous accomplissions la loi de Moïse. Vous savez, la loi de Moïse, Jésus a dit, il l'a résumé en deux commandements: tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi et les prophètes, a enseigné Jésus. Et donc, c'est ce que propose la Nouvelle Alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Lit-on en Jérémie chapitre 31. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 27. Donc l'Esprit Saint, qui est dans le croyant, va nous faire accomplir la loi, rien de moins. Et donc l'apôtre Paul avait bien raison de dire, loin de là, à ceux qui pensaient que la grâce de Dieu allait la permission de péché. Pas du tout. Au contraire, la grâce de Dieu, par l'esprit qu'il donne aux croyants, qui est en eux, va les extraire et leur permettre de marcher de victoire en victoire par rapport au péché. Alors maintenant, la partie des versets de 5 à 13. Je n'arriverai pas à les rentrer tous.
Peut-être je vais dézoomer un peu. Voilà.
En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit, s'affectionnent ou ont tendance avec la chair. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit ont tendance à l'esprit. Dans tout ce passage de 5 à 13, on va voir que l'esprit triomphe de la chair. L'Esprit Saint triomphe de la chair. L'Esprit Saint change les aspirations. Vous connaissez un petit peu les animaux, hein, si vous faites la différence entre un chat et un porc, un cochon, ben les chats, si vous l'observez, ils se débrouillent toujours pour être propres. Il fait toujours attention où il met ses pattes, il entretient son pelage. C'est dans sa nature que d'être comme ça. Il supporte pas de se mouiller, il supporte, pour lui, il doit être propre. C'est sa nature, et il tend vers cela. Et pour ce qui concerne les porcs, à l'époque, chez mes parents, il y en avait. Ben, eux, c'est pas une joie pour eux de leur mettre de la paille. Ils en ont rien à faire. Ils se couchent dans leurs excréments, et ça leur va très bien. Ils n'aspirent pas du tout à autre chose qu'à cela. Et il y a deux natures, et il y a deux comportements. Et la présence du Saint-Esprit à nous transforme ces aspirations. Elle transforme les aspirations. Et donc la vie chrétienne normale, c'est de prendre du plaisir aux choses spirituelles. C'est ce qui constitue la vie chrétienne normale. Parce que l'Esprit Saint a opéré un changement dans nos aspirations, dans ce que l'on souhaite, dans ce vers quoi on veut aller. L'Esprit Saint transforme les aspirations. Ensuite, on a un rappel que il n'y a pas compatibilité entre la chair et l'esprit, entre la personne charnelle. En fait, elle est ennemie de Dieu. Verset 6. La chair tend à la mort, l'esprit tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle est même incapable. On a vu ça la dernière fois. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Tous les hommes sont sous l'empire du péché. On l'a rappelé tout à l'heure, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, constatait Dieu en Romains chapitre 3. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, indiquait Paul en Romains chapitre 7, verset 18. Donc, naturellement, une personne est incapable de faire le bien selon Dieu. Le bien que Dieu attend est inaccessible. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle être charnel. Ce que l'apôtre Paul appelle être charnel. C'est être sur ce terrain-là. Et donc, évidemment, c'est incompatible avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Donc, une personne charnelle, elle est ennemie, elle est opposée à Dieu. Elle n'est pas du tout dans la perspective, dans le giron de la sainteté de Dieu. Mais l'apôtre Paul veut immédiatement rassurer les chrétiens de Rome, et nous aussi sans doute ce matin, avec le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'important de savoir, est-ce qu'on a l'esprit de Dieu en nous? Est-ce qu'on a l'esprit de Dieu en nous? La réponse à cette question est déterminante. Comment savoir si j'ai reçu l'esprit? Comment on peut le savoir? Ah ben, on le sait surtout s'il y a eu cette fameuse transformation, ce changement dans le cœur qui se produit quand l'Esprit Saint vient habiter quelqu'un. Eh bien, c'est certain qu'il y a des changements qui se produisent. Et à travers ces changements, on peut identifier que, ben voilà, là, l'Esprit Saint y vit dans cette personne-là. Est-ce qu'il y a eu transformation? Et quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Eh bien, la parole indique que c'est une fois pour toutes. L'Esprit Saint ne vient pas dans le croyant pour repartir, pour revenir. Non, il habite le croyant. Et donc, il fait sa demeure là. Et donc, c'est pour toujours. Hein. On reçoit le Saint-Esprit une fois pour toutes. Et quand est-ce que ça se produit? Eh bien, c'est à la conversion. À ce moment-là, hein, et les chrétiens évangéliques, ils aiment bien que qu'on puisse mettre une date. C'était à ce moment-là que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur. C'est à ce moment-là j'ai fait telle expérience. Tout le monde ne peut pas mettre une date, mais ce qu'il y a toujours, c'est qu'il y avait un avant et il y a un après. Il y a un changement. Autrefois, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous étiez dans les ténèbres, maintenant, hein, Dieu vous a conduit dans son admirable lumière. Il y a un avant et il y a un après. Le vrai chrétien a reçu l'Esprit qui habite en lui. C'est ce qui fait un chrétien, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Versets 10 à 11. Or le Christ, si le Christ est en vous, le corps il est vrai mort à cause du péché, mais l'esprit est de vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous savez que le péché travaille à travers nos membres, à travers notre corps, à travers notre bouche, à travers ce qu'on fait, et ça la conduit à la mort. Mais la mort n'aura pas le dernier mot. Et la présence de Saint-Esprit en nous nous donne l'assurance qu'un jour, le corps lui-même connaîtra la rédemption. On connaît bien tout cela avec l'épître, le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens qui détaille cela, comment un jour le corps du croyant sera transformé et ceux qui sont décédés, ils seront ressuscité, ramené à la vie avec un nouveau corps pour venir à la rencontre de Jésus. Donc, l'esprit n'oubliera pas le corps du chrétien qui maintenant est bien souvent un instrument par lequel la chair agit. Et donc, les deux derniers versets, le 12 et le 13. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs. Mais non envers la chair, pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Par l'esprit, nous mortifions la chair sans scrupule. Ce n'est pas qu'un chrétien va perdre son salut ici, hein, quand il dit « si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ». Ce n'est pas qu'on va perdre son salut si un jour on va pécher, si on a agi d'une façon charnelle. Mais dans la vie chrétienne normale, on ne peut pas avoir l'Esprit Saint et en même temps pactiser avec les ennemis de Dieu. On ne peut pas être des deux côtés en même temps. Et ce qui est rebelle à Dieu, eh ben, ça doit être nécrosé, hein, conduit à la mort. Vous savez, une cellule qui se nécrose, c'est une cellule qui devient, qui petit à petit va mourir. Elle ne va pas se développer, elle ne va pas, elle va rester se nécroser. Alors, on ne peut pas lutter par nous-mêmes, contre notre propre nature, c'est impossible. Il faut qu'on ait de l'aide extérieure pour arriver à faire faire mourir à nous les agissements de la chair. Pour arriver à les faire mourir, on a besoin de l'aide extérieure. Mais en même temps, c'est un problème que nous avons à l'intérieur. Et nous recevons le Saint-Esprit à nous, à l'intérieur de nous. Et l'Esprit Saint, à l'intérieur de nous, va pouvoir faire ce travail. Parce qu'il est en nous. Il est venu à l'intérieur. Et donc, il va nous permettre de faire mourir la chair qui est à l'intérieur de nous. Alors, comment collaborer, puisque c'est par l'esprit que l'on fait mourir les agissements du corps, mais il y a quelque chose qui est en nous quand même volontaire là-dedans, on est participant. Je développerai cela un petit peu après dans les applications. Monsieur Samuel Benetro, qui a enseigné pendant longtemps l'Épître aux Romains, a cette belle phrase que je vous cite. Il y a une vie qui conduit à la mort et une mort qui conduit à la vie. Au verset 13. La vie qui conduit à la mort, c'est vivre selon la chair. Une vie qui conduit à la mort. Et une mort qui conduit à la vie, c'est justement quand la chair va mourir, cela va produire la vie. Ensuite, versets 14 et 17, la présence de l'Esprit Saint nous établit enfants de Dieu, une autre œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le chrétien donc est enfant de Dieu. Dans le désert, vous savez, il y avait la tente, le tabernacle, la tente du témoignage, et là résidait Dieu. Et il y avait la nuée qui se déplaçait, et quand la nuée se déplaçait, tout le peuple se déplaçait avec la nuée. Et ainsi, la nuée conduisait Dieu dans le désert. Et l'esprit que nous avons reçu, qui est en nous, aussi va nous conduire. Un enfant ne se dirige pas tout seul. Hein. Il est conduit par ses parents. Ils lui donnent la main et ils le conduisent. Et on a cette belle image d'être enfant de Dieu. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. On a besoin d'être conduit par lui. Et bien sûr, de nous laisser conduire, cela va de soi. Là, nous avons une contraste avec l'idée de serviteur, de servir l'Éternel qu'on avait vu au chapitre 6. Hein. Ce n'est pas en tant qu'esclave que nous allons servir Dieu, mais nous allons servir Dieu comme des fils, comme des filles servent leur papa ou leur maman. Cette idée de ce service-là, qui ne c'est pas un service d'esclave, autant d'une personne qui n'a pas de liberté ou de choix. C'est un service en tant que fils et fille du Dieu le Père qui est proposé à nous. Un enfant reste toujours un enfant pour le Père. Hein. Ce qui marque le fait qu'il est enfant, c'est pas le service qu'il va rendre dans la maison. Il est enfant et ce qui donne de la joie au papa et à la maman, c'est leur enfant, c'est ce qu'il est. C'est pas les performances qu'il va avoir, bien entendu. S'il est parfois corrigé, il est toujours aimer de façon inconditionnelle. Faibles humains, nous arrivons à faire ça. Alors, à combien plus forte raison, le Seigneur Jésus. Verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Le chrétien est un enfant intime de Dieu. Il est un enfant intime. Un des fléaux de la chute, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est qu'une fois que Adam et Ève ont péché, pour la première fois, ils ont connu la peur, ils ont connu la honte, ils ont connu la crainte d'être rejetés, d'être abandonnés, ils ont la peur de ne pas plaire. Et c'est un fléau de l'humanité. Hein. C'est un fléau qui peut être un fléau dans notre vie. On peut grandir, avoir la crainte d'être rejeté, de pas être accepté là où on est. Et ça peut créer des grands troubles psychologiques. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas plaire. Mais par notre filiation, l'intimité qui est à travers ce papa-père ici, cette adoption filiale, cette crainte-là, elle disparaît. Nous sommes des enfants d'adoption d'un projet d'amour. Et l'amour bannit la crainte. Hein, 1 Jean 4, 18. Alors, Abba, c'est papa, c'est l'expression papa, c'est une intimité. Notre union à Jésus-Christ. Jésus-Christ appelait son père Abba, papa. Et étant uni à lui, c'est une des conséquences. Nous aussi, notre père céleste, on peut l'appeler papa. Vous savez, une des occasions où Jésus a appelé son père papa, c'était dans le jardin de Gethsémané, quand il était en proie à la souffrance et aux douleurs. Et il a crié « Papa ! Papa !» Si tu veux que si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté s'accomplisse et pas la mienne. Et donc ici, on crie « Papa, Père » par l'esprit que nous avons reçu. Hein. Dans l'épître de Paul aux Galates, c'est très bien exprimé. Je voudrais le relire avec vous. Galates. Galates chapitre 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et donc ici, c'est nous dans l'Épître aux Romains. C'est pas Jésus, c'est pas l'Esprit Saint, c'est nous qui crions aussi Abba Père. Le chrétien est un enfant intime de Dieu par le Saint-Esprit qu'il a reçu. Et versets 16 et 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Le chrétien est pleinement enfant de Dieu. C'est une adoption plénière qui donne la possibilité d'être considéré comme un héritier, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Et l'héritage, on l'apprend ailleurs dans la Bible en quoi il concerne. Il s'agit du royaume de Dieu, héritier du royaume de Dieu. On avait vu ça quand on avait vu l'épître aux Corinthiens. Chapitre 6, verset 9 à 10. Alors, le Saint-Esprit atteste ces choses-là. Comment il atteste ? Paul ne le précise pas. On peut avoir la certitude d'être enfant de Dieu. Et on a besoin de cette certitude-là devant une telle promesse. Cette certitude ne peut être donnée que par Dieu. Hein ? Mais Dieu le fait, le Saint-Esprit le fait. Et c'est une œuvre de l'Esprit Saint en nous. Alors, l'héritage vient d'ailleurs, il est gratuit, hein, il n'y a pas de droit de succession à payer. Et un fils travaille pour sa maison, en quelque sorte, il travaille, si nous servons le Seigneur, ce n'est pas une motivation d'esclave, c'est une motivation supplémentaire, c'est une motivation en tant que fils et que fils héritier. Et donc, l'Esprit Saint nous met en nous l'intérêt du Père Céleste, qui est aussi le nôtre. Et il est mention ici, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Avant d'entrer dans la gloire, Jésus-Christ a souffert, il a souffert à la croix. Et il a averti ses disciples, il a souffert de bien d'autres choses que la croix. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 20. Jésus est aussi le serviteur de l'Éternel. D'Ésaïe 53, où il est écrit, 53, 3, c'est le serviteur de l'Éternel habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Et donc, si nous sommes en Christ, unis en Christ, nous allons sur cette terre connaître la souffrance. Ça ne va pas échapper. C'est un passage obligé avant d'entrer dans la gloire que de traverser l'épreuve de la souffrance. Alors, quelles applications nous pouvons tirer de cela ? L'apôtre a donné beaucoup d'enseignements. Et il n'y a pas beaucoup de verbes actifs. Mais on peut quand même trouver des encouragements, des exhortations. Ça vient beaucoup plus tard dans l'épître, hein, à partir du chapitre 12, où il va donner des détails de beaucoup d'applications qui se déduisent du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. Au verset 4, marcher selon l'Esprit. Comment savoir si on marche selon l'Esprit? On pourrait rappeler la motivation du service qui était en Jésus-Christ. Hein. Donc, d'avoir une mentalité de serviteur, ça va nous permettre de voir si nous marchons selon l'Esprit. Il y a également la motivation. Est-ce que nous sommes motivés par l'amour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs? Le Saint-Esprit verse l'amour dans nos cœurs. On a vu ça, chapitre 5, verset 5. S'il verse l'amour dans nos cœurs, les motivations qui nous font agir vont être pilotées par l'amour. C'est l'amour. Et donc là, on peut voir un petit peu des indices comment on marche par l'esprit. Cette notion de service et cette notion d'amour. Au verset 12, gardez à l'esprit que nous sommes des débiteurs de Dieu. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. On doit toujours se souvenir de cela. Verset 13, faire mourir les agissements du corps. Alors on a vu tout à l'heure, donner nos membres à Dieu, Romains 6, 13. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Il vaut mieux couper ça d'être manchot que de manquer le royaume de Dieu. Et donc, faire mourir les agissements du corps qui sont pas conformes à ce que Dieu attend. Fixer les yeux vers Jésus-Christ, fixer les yeux vers l'éternité, vers le destin qui nous attend. S'il y a une vie qui conduit à la mort, il y a une vie qui conduit à la mort et une mort qui conduit à la vie. Crier Abba Père, entretenir une communion avec Dieu, hein. Ça s'oppose au fils prodigue. Le fils prodigue est parti loin de Dieu. Il n'avait pas de communion avec lui. Et ici, l'Esprit Saint veut nous conduire à cette intimité avec Dieu qu'on doit entretenir aussi. Et on crie à lui quand on est dans le danger. Un enfant, quand il est dans le danger, il crie « Papa, maman !» C'est la première chose qu'il fait. Et c'est ce que le psalmiste fait, c'est ce que nous sommes encouragés à faire, nous aussi. Nous laisser conduire également par le Saint-Esprit. Alors l'Esprit Saint va appliquer le salut que Jésus-Christ nous a donné. Il va être en nous, il permet d'accomplir la loi de Moïse, il nous transforme, il change nos orientations, il est le garant de la rédemption de notre corps, il nous permet de mortifier la chair, il nous assure que nous sommes enfants de Dieu, il nous rend intimes avec Dieu et il nous assure notre adoption plénière, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et bien sûr, il faut recevoir le Saint-Esprit, naître de nouveau, a dit Jésus à Nicodème. Voilà un petit peu ce que j'ai pu comprendre de ce chapitre, du début de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors, je vous propose de chanter un chant maintenant. Te ressembler, Jésus. Le numéro 500. Je vais prier.